Et si la hausse de l'or n'était pas un simple problème de coût pour Cartier, mais un test beaucoup plus profond? Qu'est-ce qui fait vraiment la valeur d'un modèle précieux?
Oui, la tentation serait de dire « l'or monte, donc il faut augmenter les prix » ou « réduire les marges ». Mais l'e-analyse Bicorp dit autre chose. Cartier doit arrêter de raisonner seulement en grammes d'or et piloter la désirabilité par grammes d'or exposé.
Donc l'enjeu n'est pas de rendre les montres moins précieuses.
Exactement. L'enjeu est de redéfinir la préciosité. Moins de dépendance au poids de métal, plus de valeur portée par le design, la signature, l'architecture, la rareté, l'héritage et la qualité d'exécution.
La question décisionnelle est très directe. Comment faire évoluer la stratégie produit sur les modèles précieux et optimiser la marge malgré l'impact du prix de l'or?
La réponse courte? Créer un pilotage explicite de l'exposition or, accélérer une plateforme de précieux optimisée et sécuriser la chaîne de valeur. Mais sans donner aux clients l'impression d'un appauvrissement.
Dans cet épisode, on va donc parler d'or, de marge, de désirabilité, de sous-traitants et de ce que Cartier doit décider maintenant.
Et c'est important pour l'écoute. Nous ne cherchons pas à faire un commentaire de marché de l'or. Nous cherchons à transformer un choc matière en décision concrète pour le produit, le pricing, les achats et la supply chain.
Autrement dit, la question n'est pas « quel sera le prix exact de l'or demain ?» La question est « quelle organisation rend Cartier robuste si le prix change encore ?»
Premier constat, l'or est devenu un facteur stratégique, plus seulement financier. Le rapport rappelle un marché haussier violent. Plus 27% en 2024, plus 67% en 2025, puis un pic début 2026 et une correction partielle.
Et même si le niveau exact du record doit rester prudent, l'ordre de grandeur est clair. Cartier développe des produits sur 18 à 36 mois dans un régime où le coût matière peut changer radicalement entre le brief et le lancement.
C'est le point central. Le risque n'est pas seulement que l'or soit cher. Le risque, c'est la volatilité. Une référence rentable dans le business case initial peut devenir beaucoup moins contributive au moment du lancement.
Quels sont les moteurs de cette hausse?
Baisse attendue des taux réels, dollars plus faibles, achats des banques centrales, flux vers les ETF, demande refuge et dédollarisation. Ce n'est pas un choc isolé. C'est un nouveau régime où plusieurs forces se combinent.
Donc, le CODIR ne doit pas attendre une normalisation magique.
Non. Il doit mettre en place une discipline. Stress test matière dès le brief produit. Seuil d'alerte par collection, scénario de prix de l'or et du dollar et décision de pricing ou de design déclenchée avant que la marge ne soit abîmée.
Le rapport rappelle aussi que les prévisions des banques sont utiles, mais dangereuses si on les prend comme des certitudes.
Oui. Goldman, JP Morgan, BofA, UBS ou Wells Fargo donnent des repères, pas une vérité. Pour un CODIR, leur utilité est de forcer des scénarios. Base, stress et choc. Le chiffre exact importe moins que la préparation des réponses.
Deuxième constat, le client n'abandonne pas le luxe, mais il arbitre plus durement.
Oui, les volumes de joaillerie en or reculent dans plusieurs marchés, mais la valeur reste élevée. Cela veut dire que le client continue de payer pour le luxe, mais il devient plus sensible à ce qu'il reçoit réellement. Portabilité, statut, design, confort, valeur perçue.
C'est une nuance importante. Ce n'est pas « l'or monte, donc le client disparaît »
Non. C'est plutôt « le client accepte la préciosité si elle est intelligible ». Il refuse davantage le poids matière sans histoire. Une pièce lourde, conventionnelle et simplement chère devient vulnérable. Une pièce plus légère, plus dessinée, plus iconique peut mieux résister.
Et c'est là que Cartier a un avantage naturel.
Absolument. Cartier n'est pas seulement une maison de métal précieux. C'est une maison de forme. Tank, Santos, Panthère, architecture de bracelet, ligne immédiatement reconnaissable. Son territoire naturel est précisément celui où la valeur vient de la signature autant que de la matière.
Donc l'objectif n'est pas de vendre moins d'or par défaut, mais de vendre plus de quartiers par gramme d'or.
On le voit dans les comportements d'achat. Les clients cherchent parfois des pièces plus légères, du bicolore, du plus bas carat ou la reprise d'ancien or. Cela ne veut pas dire qu'ils deviennent rationnels au sens froid. Cela veut dire qu'ils arbitrent la valeur symbolique avec plus d'attention.
Donc si Cartier explique la légèreté comme confort, élégance et architecture, c'est très différent de la présenter comme une réduction de coût.
Troisième constat, la marge horlogère est déjà sous tension, mais Cartier est structurellement protégé par Richemont et par ses Jewelry Maison.
Le rapport compare deux réalités très différentes. Les Jewelry Maison, avec une marge opérationnelle autour de 30,5%, et les spécialistes Watchmakers autour de 3,4%.
Même groupe, même univers du luxe, mais économiques très différents. Cela montre que le problème n'est pas l'or en soi. Le problème est l'exposition relative. Combien de coûts matières, combien de pricing power, combien de valeurs de marque, combien de complexité industrielle.
Cartier est donc mieux protégé qu'une marque horlogère pure.
Oui, mais pas invulnérable. Le risque n'est pas l'effondrement spectaculaire, c'est la dégradation silencieuse. Certaines références historiquement rentables deviennent moins contributives, les hausses de prix passent sur quelques icônes, mais moins sur les extensions. Les stocks précieux coûtent plus cher, les sous-traitants se fragilisent.
Et cette dégradation silencieuse est dangereuse, parce qu'elle ne se voit pas immédiatement dans l'image.
Exactement. C'est pour cela qu'il faut piloter la marge au niveau référence, pas seulement au niveau maison.
C'est aussi pourquoi les indicateurs doivent descendre plus bas que le reporting financier agrégé.
Exactement. Il faut suivre la marge par référence, le grammage moyen, le sell-out, les stocks, les retours retail et la sensibilité marché par marché. Sans ces données internes, on pilote trop tard et trop globalement.
L'analyse propose de resegmenter les modèles précieux en quatre rôles. Pourquoi c'est structurant ?
Parce qu'une stratégie matière uniforme serait une erreur. Une icône patrimoniale, une icône accessible statutaire, une innovation design et une pièce de haute joaillerie ne doivent pas obéir à la même logique.
Prenons l'icône patrimoniale.
Là, l'or fait partie de la légitimité. Il faut maintenir une version full gold, accepter un pricing dynamique, mais maîtriser les volumes. On protège l'aura.
Et l'icône accessible statutaire ?
C'est le territoire du bicolore, de l'acier or, des bracelets alternatifs premium. Le client cherche le signal Cartier et une touche de préciosité, pas forcément un maximum de métal.
Pour l'innovation design, la matière peut changer davantage.
Oui, titane, céramique, platine redevenue compétitif, architecture ajourée, boîtier plus fin. Enfin, en haute joaillerie, le coût de l'or est secondaire. Priorité à la rareté, à l'approvisionnement, à la désirabilité et au récit.
Ce cadre évite deux erreurs opposées. Sacraliser l'or partout ou optimiser la matière partout.
Oui, dans une maison comme Cartier, certaines pièces doivent rester généreuses et patrimoniales. D'autres peuvent devenir plus contemporaines, plus légères, plus architecturées. La finesse consiste à choisir où l'or est essentiel et où la signature suffit.
La concurrence a déjà répondu à la hausse de l'or. Quels leviers ressortent ?
5 leviers. D'abord, les hausses ciblées par matière. Augmenter fortement les références or, mais préserver l'acier ou même ajuster le platine. Ensuite, les alliages propriétaires. Everose, Sedna, Moonshine, Magic Gold, Goldtech. Ils transforment la matière en signature.
Donc l'alliage n'est pas qu'un sujet technique.
Non, c'est un actif narratif. Troisième levier, la substitution matière, avec le bicolore, le titane, la céramique, le platine ou des matériaux avancés. Quatrième, l'ingénierie d'allègement. Moins d'or à image égale, via boîtiers évidés, structures plus fines, bracelets cuir ou caoutchouc haut de gamme.
Et le cinquième ?
La réduction des diamètres, quand elle est portée comme choix stylistique et non comme réduction de coût. Pour Cartier, le piège serait de copier ces leviers de manière défensive.
La bonne posture serait plutôt « ce n'est pas moins de luxe, c'est une expression contemporaine de Cartier ».
Voilà, architecture, légèreté, modernité, héritage de forme. Le message retail doit être préparé autant que le produit. Le cas d'un alliage signature est intéressant. Ce n'est pas seulement inventer une couleur d'or, c'est créer un vocabulaire propriétaire comme une grammaire Cartier de la matière.
Et ce vocabulaire peut justifier une prime qui n'est plus indexée mécaniquement au poids d'or. Parlons maintenant chaîne de valeur. Le rapport dit que le vrai goulot n'est pas seulement le coût de l'or, mais son financement en cours de production.
Oui. Une maison ou un sous-traitant ne finance pas seulement l'or contenu dans une montre finie. Il faut financer le stock tampon, les encours, les chutes, les reprises, les produits finis. Quand le prix de l'or explose, le besoin de fonds de roulement explose aussi.
Et ce sont souvent les sous-traitants qui souffrent le plus.
Exactement. Ils peuvent réduire l'investissement, ralentir, demander des acomptes, perdre des compétences. Pour Cartier, cela devient un risque de qualité, de délai et de continuité industrielle.
La recommandation n'est donc pas seulement financière.
Non, il faut cartographier les fournisseurs exposés à l'or, aux platines, au palladium, à l'argent, identifier ceux qui sont sous-capitalisés, mettre en place consignation de métal, contrat pluriannuel, co-développement, recyclage interne et traçabilité.
En clair, sécuriser la chaîne devient une partie de la stratégie produit.
La consignation d'or aux sous-traitants, par exemple, peut sembler très technique. Mais stratégiquement, c'est un moyen de protéger la qualité et les délais sans demander à tout l'écosystème de porter seul la volatilité.
On passe donc d'une relation fournisseur classique à une logique de résilience partagée.
Venons-en au scénario. Le scénario central de l'e-analyse est un plateau haut maîtrisé. L'or reste élevé et volatile, mais sans nouveau choc incontrôlé. Probabilité indicative, 45%.
Dans ce cas, Cartier doit activer un tableau de bord or, marge et mix, faire du repricing graduel, accélérer le bicolore et les modèles allégés et intégrer la contrainte de grammage dans les lancements 2027.
Deuxième scénario. Nouveau choc haussier durable. Là, on déclenche un Gold Shock Playbook. Couverture, pricing ciblé plus fréquent, allocation de stock, alternatives matériaux et messages retail très précis pour éviter l'impression d'inflation opportuniste.
Troisième scénario, correction partielle.
Et c'est intéressant. Même si l'or corrige, il ne faut pas annuler la transformation produit. Ce serait la mauvaise conclusion. La fenêtre doit servir à reconstituer le stock matière, verrouiller des forwards plus bas, mais continuer la stratégie de précieux optimisée.
Donc, dans les trois scénarios, la transformation reste nécessaire. Seule la vitesse change. Ce qui frappe, c'est que le scénario favorable ne dispense pas d'agir.
Oui, même si l'or reste simplement haut et volatile, le sujet demeure. Et si l'or corrige, il serait dangereux d'oublier la leçon. La volatilité reviendra. La discipline construite maintenant servira au prochain cycle.
Si on devait résumer les décisions à prendre dans les 90 jours, quelles seraient-elles ?
Première décision, créer un comité Gold Exposure mensuel. Finance, achat, produit, retail, supply chain. Pour chaque référence, coût matière sensible, marge cible, seuil d'alerte, scénario base, stress et choc.
Deuxième décision, lancer la plateforme Précieux optimisé.
Oui, bicolore, titane or, céramique, boîtier plus fin, architecture ajourée, bracelet alternatif premium et étude d'un alliage d'or signature Cartier. Mais avec une narration positive, confort, architecture, modernité, exigence contemporaine.
Troisième décision, pricing dynamique, mais non brutal.
Exactement. Pas de hausse uniforme et anxieuse. Des seuils par famille, par marché, par sensibilité, change et concurrence. Et surtout, protéger les rôles de recrutement. Certaines références ne doivent pas devenir des victimes collatérales du prix de l'or.
Quatrième décision, sécuriser les sous-traitants clés.
Et cinquième, renforcer la narration client pour que l'optimisation matière ne soit jamais perçue comme une baisse de générosité. Le plan 90 jours doit rester très opérationnel, pas un grand programme théorique. Un comité, une cartographie, trois scénarios, des seuils, quelques références pilotes et une narration retail testée.
C'est le bon niveau. suffisamment concret pour agir, suffisamment stratégique pour ne pas réduire le sujet à une économie de matière. La grande idée, finalement, c'est que Cartier ne doit pas subir le prix de l'or. Cartier doit transformer cette contrainte en discipline de design, de marge et de récit.
Oui, le risque serait de répondre par réflexe, augmenter les prix, réduire le poids ou attendre que le marché se calme. La réponse stratégique est plus exigeante. Segmenter les rôles produits, piloter l'exposition or, protéger la chaîne et raconter une préciosité contemporaine.
Ce qui est bienveillant envers Cartier, c'est de reconnaître sa force, son design, son héritage, son pricing power, son univers joaillier.
Et ce qui est non complaisant, c'est de dire que cette force ne suffit pas si la marge se dégrade référence par référence, si les sous-traitants fatiguent ou si le client lit l'optimisation matière comme une économie cachée.
Donc la décision Codir pourrait tenir en une phrase. Faire payer la désirabilité Cartier par gramme d'or exposé, pas le poids du métal.
C'est exactement la conclusion. Et si le site puis le podcast sont validés, Bicorp pourra intégrer cet épisode à l'e-analyse finale comme support de décision pour le Codir.
Merci Sophie.
Merci Thomas.
Dernier point. Ce podcast ne remplace pas les données internes de Cartier. Il prépare les bonnes questions.
Oui, les données publiques donnent la direction et les alertes. Les décisions finales devront être recalées avec les marges par référence, les stocks, le sell-out, les plans de lancement et la réalité fournisseur.
C'est là que l'e-analyse devient un outil de travail. Elle ouvre une conversation de décision, elle ne ferme pas le débat.